Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Niger. L'armée nigérienne a tué 33 terroristes membres du groupe djihadiste nigérian Boko Haram lors d'une vaste opération de ratissage dans la région du lac Tchad, dans le sud-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué ce mercredi à la télévision nationale. Selon les autorités, les affrontements de mardi 12 mars 2019 entrent dans le cadre de l'offensive déclenchée par les forces de défense et de sécurité le samedi 9 mars, soit au lendemain de la violente attaque de Boko Haram au cours de laquelle 7 gendarmes nigériens avaient été tués près de Geskeru, une commune de la région de Difa, proche de la frontière du Nigeria et de l'État nigérian de Borno, berceau de Boko Haram. Pas de pertes à signaler côté forces nigériennes, souligne le communiqué militaire qui fait état de la confiscation de 2 véhicules, 2 motos et un mortier de 120 mm pris à l'ennemi. Au Mali voisin, l'armée nationale a fait état mardi de la mort de 6 militaires maliens. Leurs véhicules ont sauté sur des mines lors de 2 patrouilles distinctes dans le centre du pays. Une autre source sécuritaire évoque un bilan de 7 morts. Jean-Roger Bion.
L'armée malienne a indiqué sur son site internet que dans la matinée du mardi 12 mars 2019, 2 véhicules d'escorte des forces armées maliennes ont sauté sur des engins explosifs improvisés, faisant respectivement 2 morts à Dialoubé et 4 morts dans les environs de Hombori, dans la région de Mopti. Un peu plus tard, un autre véhicule de la gendarmerie a sauté sur une mine, tuant 3 autres soldats et non 2, a affirmé une autre source militaire. Elle évoque la mort de 7 militaires maliens alors qu'ils étaient en mission. Malgré la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent dans le pays, avec 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017, selon l'ONU. 2 soldats français de la force Barkhane ont été sérieusement blessés dimanche dans l'attaque de leur campement temporaire près de la frontière avec le Niger. Les autorités maliennes et les forces internationales avaient espéré une baisse des violences dans le centre après avoir donné pour mort fin novembre le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, principal chef djihadiste de la région. Mais il est vraisemblable qu'il soit toujours en vie, a indiqué lundi l'état-major français après l'apparition récente dans une vidéo d'un homme présenté comme Amadou Koufa.
En Côte d'Ivoire, on se souvient aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, le 13 mars 2016, le pays subissait alors sa première attaque terroriste avec l'incursion contre la station balnéaire de Grand Bassam à une 30aine de kilomètres d'Abidjan. Bilan, une 20aine de morts. Coup de projecteur sur Grand Bassam 3 ans après l'attaque avec notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara qui s'est rendu sur place.
Et moi, j'ai aperçu 2 jeunes en train de tirer vers ici, à bout portant même.
C'était le dimanche 13 mars 2016. Ce jour-là, peu avant 13h, heure locale, des assaillants armés des fusils d'assaut prennent pour cible plusieurs hôtels de la plage du Grand Bassam. Des touristes sont abattus. Une demi-heure plus tard, les forces spéciales ivoiriennes entrent en action. Les terroristes sont neutralisés. Le bilan officiel fera par la suite état de 22 morts, dont 12 Ivoiriens et 7 ressortissants étrangers. 3 ans après, ce drame est toujours vivace dans la mémoire des habitants de Grand Bassam.
Vraiment, c'est un souvenir très, très douloureux. Mais aujourd'hui, c'est du passé. On essaie de se refaire, on essaie de se reprendre, de remettre les idées en place. C'est des très mauvais souvenirs. On prie Dieu pour ne pas que ça se répète.
Conséquence immédiate de cette attaque, les activités touristiques dans la cité balnéaire sont au point mort. Les hôtels sont quasiment vides. 3 ans après, l'Étoile du Sud, l'un des hôtels pris pour cible par les terroristes, se remet progressivement des conséquences de ce drame. Marie-Thérèse Sangaré, directrice générale de l'Étoile du Sud.
C'est vrai qu'on a vraiment des difficultés. Les clients viennent difficilement, ils ont encore peur. La reprise est difficile. On essaie d'aller, mais par rapport à avant 2016, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore repris.
Moi, j'attends que l'État nous fasse venir régulièrement des séminaires. Vraiment, pour que ça puisse donner envie aux gens de revenir. Si on a beaucoup de séminaires, les Ivoiriens verront que l'Étoile du Sud reprend et il y a la sécurité, puisqu'il y a des séminaires qui se font.
Le petit commerce, autrefois florissant autour de la plage, tentent aussi de se remettre de cette attaque.
C'est petit à petit que ça avance en ce moment, mais c'est un peu compliqué, quoi, parce que les touristes ne viennent pas en tant que tels. Voilà, on a que ceux qui sont là, les locaux, qui viennent juste nous aider un peu dans le travail, c'est tout. Voilà, sinon, le travail, ça n'a pas encore repris en tant que tel.
Pour cette touriste iranienne et son hôte, pas question de céder à la peur.
À mon avis, vraiment, c'est parfait, magnifique. Je suis seule même ici. Nous sommes deux femmes. Et non, pas du tout. Pourquoi on doit avoir peur? Mais on a s'amuser tranquillement avec nos amis ivoiriens ici. Non, ça va parfait.
Plus d'une dizaine de suspects ont été arrêtés dans l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. Cependant, l'homme identifié comme le principal cerveau de l'attentat court toujours. Il s'agit d'un certain Kunta Dalla, de nationalité malienne. Georges Ibrahim Tounkara, Grand Bassam, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Guinée-Bissau maintenant, avec les suites de la saisie record de cocaïne à Bissau le week-end dernier. On a appris qu'un collaborateur du président de l'Assemblée nationale du Niger fait partie des 4 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger en question est Mohamed Sidi Ahmed, selon le directeur adjoint de la police judiciaire, Domingos Montero Correa. 2 Maliens et 1 Bissau-Guinéen étaient toujours recherchés hier, selon la police judiciaire de Guinée-Bissau. Dans la nuit du 9 au 10 mars, la police bissau-guinéenne a saisi près de 800 kilos de cocaïne dissimulée dans un camion immatriculé au Sénégal, la plus grande prise de drogue dans le pays depuis au moins 12 ans, selon des sources policières. Les stupéfiants avaient pour destination le nord du Mali, a précisé mardi la police judiciaire. 4 suspects, 2 Nigériens, un Sénégalais et un Bissau-Guinéen, ont été arrêtés à la suite de cette saisie à la sortie nord de la capitale Bissau. Cette saisie a eu lieu quelques heures avant les législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où l'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de trafiquants de drogue sous la protection de hauts gradés.
Élection au Nigeria, la Commission électorale nationale nigériane a annoncé mardi avoir invalidé les résultats des élections des gouverneurs dans au moins 6 États de la Fédération nigériane, des élections qui devront avoir lieu à nouveau samedi prochain. Le Nigeria a voté samedi dernier pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 29 des 36 États du pays. Les observateurs internationaux déployé au Nigeria pour la présidentielle et les législatives du 23 février, ainsi que pour les régionales du 9 mars, ont déjà fortement critiqué l'organisation et les multiples violences qui ont entaché la crédibilité de ces différents scrutins. Au Gabon, un collectif défraie la chronique après avoir lancé un ultimatum à Libreville pour faire reconnaître la vacance du pouvoir en l'absence du président Ali Bongo Ondimba hors du pays depuis octobre. Dimanche 31 mars, si rien n'est entrepris pour mettre un terme à la situation, nous devons agir pacifiquement pour exiger que soit mis fin à l'imposture en cours. Ont écrit fin février, 9 personnalités politiques, syndicales et de la société civile, rejointes dimanche dernier par l'opposant Jinping. Le gouvernement a estimé que certains de nos... Le gouvernement, pour sa part, estime que certains Gabonais appellent à la désobéissance et à la rébellion. Catastrophe du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à Addis Abeba. Le ciel mondial se ferme davantage aux avions Boeing 737 MAX. Après 2 accidents mortels en moins de 6 mois impliquant cette nouvelle génération d'appareils, plusieurs pays ont indiqué qu'ils n'accepteront plus, jusqu'à nouvel ordre, ce type d'avion dans leur espace aérien. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
À la suite des interdictions en rafale de la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'Agence européenne de sécurité aérienne a décidé de suspendre tous les vols de ces appareils, qu'il s'agisse des MAX 8 ou des MAX 9, qu'ils soient à destination au départ ou à l'intérieur de l'Union européenne, que les opérateurs soient européens ou issus de pays tiers. L'Inde a également annoncé qu'elle clouait au sol les 737 MAX. Ces avions ne voleront pas tant que des modifications appropriées et des mesures ne seront pas prises pour assurer leur sécurité, a indiqué le ministère de l'Aviation civile. De nombreuses compagnies aériennes ont aussi décidé de bouder ces appareils jusqu'à nouvel ordre. Les 737 MAX sont entrés en service en mai 2017. Plus de 370 appareils de cette famille volent dans le monde. Alors que Boeing se faisait étrier en bourse pour la 2e journée consécutive, le contraste entre la défiance mondiale et la position américaine se fait de plus en plus criant. Les États-Unis n'ont jusqu'ici pas interdit de vol 737 MAX, gamme clé de la stratégie commerciale de Boeing. Washington a toutefois demandé à Boeing de procéder à des modifications techniques.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.